dans ce nouvel épisode d'Historio Info, l'intelligence artificielle pour mieux comprendre certains manuscrits de la Nouvelle-France, une portion de voix romaine mise au jour à Nîmes, de magnifiques fresques illustrant des pans de la guerre de Troie dévoilées à Pompéi, un nouveau projet pour étudier l'alignement des pierres de Stonehenge avec les cycles lunaires, terrible incendie de la Bourse de Copenhague, un des édifices les plus anciens de la ville, des porcelaines de Marie-Antoinette retrouvées 37 ans après leur vol, un magnifique casque de guerrier illyrien a été découvert dans une nécropole antique en Croatie, et finalement, les analyses de restes humains mis au jour au Guatemala révèlent un bouleversement politique majeur dans une cité maya. Dans notre rubrique à la loupe, l'histoire du San José. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historio Info. Le mois d'avril a été particulièrement diversifié en ce qui concerne les découvertes archéologiques et les annonces dans le monde de l'histoire. En fait, même votre animatrice a deux annonces pour vous. En effet, vous pouvez vous procurer maintenant deux de mes livres d'histoire si jamais vous êtes intéressé, bien entendu. Le premier, qui est destiné aux 9-13 ans, s'intitule « Civilisation, histoire de monuments et de constructions incroyables ». C'est le premier d'une série, en fait. Et il est publié chez Fides. Et chez le même éditeur, eh bien, je viens aussi de publier un très gros manuel d'histoire pour le nouveau cours du programme de sciences humaines. Celui-ci s'intitule « Le monde depuis le 15e siècle, une histoire des sociétés en interaction ». Je l'ai écrit en collaboration avec ma collègue Karine Prémont de l'Université de Sherbrooke et les historiens Mathieu Perron et Audrey Desrochers. Alors, si jamais vous êtes intéressés, bien, je vous souhaite de bonnes lectures! Passons maintenant à nos actualités. Les papyrus carbonisés d'Herculanum et leur analyse via, entre autres, l'intelligence artificielle dont nous avons parlé, en fait, dans les précédents balados, ont beaucoup fait les manchettes ces derniers mois. Mais l'intelligence artificielle peut aussi être au service d'autres archives, notamment celle de la Nouvelle-France. Et c'est ce que nous a appris un excellent article de Radio-Canada récemment. En fait, les documents anciens qui sont écrits à la main peuvent être la source de plusieurs difficultés pour les chercheurs et les archivistes. Surtout quand l'écriture cursive eh bien, est particulièrement difficile à lire et c'est le cas de beaucoup d'archives anciennes. En fait, c'est le cas aussi pour le grec en cursif, je peux vous le dire. Et c'est là que l'intelligence artificielle eh bien, peut venir nous donner un coup de main. Alors, dans cet article de Radio-Canada, eh bien, on a appris que le professeur d'histoire Léon Robichaud et le professeur d'histoire Maxime Goyer, eh bien, utilisait un logiciel qui s'appelle Transcribus, qui est d'origine autrichienne et qui permet d'utiliser des techniques d'apprentissage profond et d'intelligence artificielle pour réussir à transcrire des séries de documents anciens. Et ça permet aussi de développer des modèles qui sont plus spécifiques pour la transcription de textes, notamment comme ceux de la Nouvelle-France. Alors, c'est une nouvelle méthode de travail qui peut grandement aider les chercheurs à trouver des informations inédites et fascinantes dans nos anciennes archives. Alors, je vous invite à aller lire l'article et voyons ce que ça donnera dans le futur. Allons maintenant en France, et plus particulièrement à Nîmes, où des archéologues ont mis au jour une portion de voie de l'époque romaine. Bon, j'aime toujours, en fait, quand on trouve des portions de route de l'époque romaine quelque part, ça nous aide toujours à comprendre encore davantage à quel point ils ont construit des routes et à quel point elles s'étendaient partout. Et le tronçon a été dégagé tout près du centre-ville, et il permet de joindre une grande voie principale qui était la célèbre voie Domitienne, une voie qui avait été nommée en l'honneur de l'empereur Flavien Domitien, et cette grande artère avait été réalisé sous son règne. Alors, ce qui vient d'être découvert, c'est un tronçon qui permettait à l'origine de lier la péninsule italienne à la péninsule ibérique. Et la portion dégagée est quand même assez large, on parle de 15 mètres de large, donc c'est quand même pas pire. Et surtout, elle est délimitée par deux murs. Donc, on a vraiment comme l'impression un peu d'un tunnel avec cette route-là. Et ils n'ont pas trouvé qu'une portion de voie romaine. Ils ont aussi trouvé des tombes avec des objets du quotidien comme des lampes à l'huile. Et là, la question, c'est ben, qui était inhumé à cet endroit, donc près d'une route principale? Et ben là, il va falloir plus d'analyse pour le savoir. Encore une fois, il faut suivre les actualités dans les prochains mois. Et il ne se passe pas un mois sans que nous parlions de Pompéi, et c'est formidable! Parce que depuis que les fonds alloués à ce site de l'UNESCO ne sont plus détournés par la mafia et qu'ils sont administrés par les universités, eh bien là, les archéologues ne cessent de fouiller de nouvelles maisons, des blocs appartements, et c'est pour ça que les découvertes abondent, et surtout, ils ont pour mandat de montrer rapidement au grand public ce qu'ils trouvent. Alors, c'est la preuve, en fait, qu'ils travaillent et que les fonds sont bien utilisés. Et ce mois-ci, ils ont mis au jour et dévoilé des fresques absolument magnifiques. Elles viennent d'une résidence de la zone 9, qui est vraiment la zone la plus fouillée présentement sur le site, et les fresques illustrent différents pans de l'histoire de l'Iliade. Et il y en a une qui montre, entre autres, Hélène et Paris, si vous connaissez un peu le mythe. Et les fresques ont quelque chose de particulier, même si ce n'est pas si rare à Pompéi, elles sont sur fond noir, et elles ornaient une espèce de salle de banquet d'une très luxueuse villa. Et là, la question qui s'est posée rapidement quand les gens ont vu les peintures, c'est pourquoi les murs étaient-il peint en noir? Alors là, ça, c'est intéressant. Et on se doute que beaucoup, beaucoup de résidences luxueuses à Rome, probablement, en fait partout en Italie, pendant l'Antiquité, devaient avoir des fonds noirs. Parce qu'à l'époque, on s'éclaire avec des lampes à l'huile et des lanternes. Et vous vous en doutez, ça dégage beaucoup de fumée et ça salit, ce qu'on ne voit pas sur des murs noirs. Déplaçons-nous maintenant en Angleterre, et plus précisément à Stonehenge. Donc, on a beaucoup de sites célèbres, en fait, ce mois-ci, qui refont l'actualité. Alors, il faut dire que le site a fait les manchettes, non pas en raison des débats en lien avec le tunnel autoroutier, là, qui devrait être construit tout près. Ça, c'est quand même une des catastrophes dont on discute et on débat beaucoup en Angleterre présentement. Mais cette fois, c'est parce qu'une nouvelle étude assez novatrice, je vous dirais, va s'y dérouler. En effet, nous savons que les pierres sont orientées sur les solstices d'été et d'hiver, mais se pourrait-il que le site permette aussi d'observer et de célébrer certains phénomènes lunaires? Eh bien, des archéologues et des astronomes vont essayer d'étudier le site pour valider cette hypothèse, notamment lors de la prochaine éclipse totale de lune en 2025. Alors qu'on commémorait en avril le triste 5e anniversaire du terrible incendie de Notre-Dame de Paris, je crois que vous vous en souvenez, eh bien, la ville de Copenhague a elle aussi vu un de ses plus anciens bâtiments être ravagé par les flammes. Les images étaient quand même assez catastrophiques. En fait, le 16 avril, ce qu'on appelle l'ancienne bourse de Copenhague, qui est un bâtiment qui date du 17e siècle et qui était en cours de travaux pour le rénover afin de célébrer ses 400 ans d'existence, eh bien, il a pris feu sous les yeux des habitants. Et un peu comme Notre-Dame de Paris, eh bien, ils ont vu la flèche emblématique du bâtiment s'effondrer dans le brasier. Les images sont vraiment très, très tristes. Et il s'agit en fait d'un des bâtiments les plus incontournables de la ville. C'est comme l'histoire, le cœur, les débuts de Copenhague. Et il renfermait aussi une vaste collection d'œuvres d'art. On n'a pas encore trop d'informations sur si plusieurs d'entre elles ont été endommagées, parce que c'est pas juste l'incendie, c'est l'arrosage et tout ça. Donc ça, c'est à suivre. Et la façade du bâtiment a fini par s'effondrer. Et présentement, là, il est trop tôt pour savoir est-ce que le bâtiment va être restauré? Est-ce qu'il peut être sauvé? C'est une histoire à suivre, mais mes sympathies, honnêtement, pour les habitants de Copenhague. Et ce mois-ci, la reine Marie-Antoinette a elle aussi fait l'actualité en lien avec un cas de vol de ses porcelaines perpétré il y a de cela 37 ans. Il s'agit d'une aiguillère et d'un bassin en porcelaine d'un bleu cobalt, un bleu assez rare. D'ailleurs, si vous allez voir les images, c'est un bleu là, vraiment vif qui avait été offert par Marie-Antoinette à sa gouvernante, la duchesse de Tourzel. Et ils ont été subtilisés il y a 37 ans par 3 voleurs au château de Torry. Et elles ont été revendues sur le marché des antiquités et elles ont récemment trouvé preneur. Et l'acheteur a eu la bonne idée de les faire expertiser parce qu'ils aiment, mon Dieu, des porcelaines de Marie-Antoinette sur le marché. autant essayer de comprendre d'où elles viennent. Et voilà, il a réalisé en fait qu'elle figurait sur une liste d'objets culturels disparus. Et il a donc permis de les authentifier, le payer pour leur authentification. Et là, ça ne fait plus de doute. Et cet acheteur anonyme a accepté de retourner les pièces là, au château d'origine. Alors comme quoi, certaines histoires de vol peuvent bien se terminer. Une des découvertes archéologiques les plus spectaculaires depuis le début de l'année a été réalisée en Croatie. On n'en parle pas souvent, en fait, dans les actualités archéologiques, mais reste qu'on fouille quand même pas mal de ce côté-là. Et les archéologues ont mis au jour un très rare casque militaire qu'on appelle de type illyrien dans une nécropole antique qu'on appelle Gomilée, qui est tout près, en fait, de Dubrovnik. L'Illyrie, quand on pense à l'Antiquité, ben, c'était une région qui longeait à peu près la côte orientale de la mer Adriatique, pour vous aider à vous situer. Et il y a un autre casque militaire similaire qui avait été exhumé 4 ans à peu près auparavant, et il était lui aussi dans un bon état de conservation. Mais celui-ci, vraiment, est spectaculaire. Il est daté d'environ 2500 ans, il est en bronze, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde les images, il est verdi par le temps, et il était vraiment fait là, pour encadrer le visage jusqu'au cou. Ça donne un peu une impression, là, je dirais Star Wars. Il y en a plusieurs qui ont fait en fait la référence. Il a été trouvé dans un tumulus de pierre, et il a probablement été placé en guise d'offrande, donc afin de souligner le statut, le pouvoir du défunt, pour l'éternité d'une certaine façon. Alors, il y a d'autres analyses, évidemment, là, qui vont être réalisées sur le casque et peut-être qu'on va trouver d'autres objets intéressants parce que cette nécropole-là, depuis quelques années, wow, on a quand même beaucoup, beaucoup d'objets de l'époque de la Grèce antique et de la Rome antique là, qui sont dégagés. Changeons maintenant de continent et allons en Amérique du Sud et plus particulièrement au Guatemala pour terminer cette tournée de l'actualité. Au cœur des vestiges d'un temple maya sur le site de Ucanal, les archéologues ont trouvé beaucoup de choses, dont des os calcinés de 4 personnes qui appartenaient probablement à une lignée royale au 9e siècle. Et ils ont aussi trouvé des milliers d'objets brûlés, précieux, des parures, des pendentifs en ossements d'animaux, des perles et même des armes. Et c'est assez rare, en fait, de trouver des corps de gens de haut rang qui sont calcinés chez les Mayas. Alors, la découverte a suscité l'intérêt et surtout beaucoup de questions. Pourquoi avoir incinéré ces gens-là en particulier? Alors, l'hypothèse a été présentée dans la revue Antiquity et ce que les archéologues ont émis, en fait, comme hypothèse, la conclusion à laquelle ils sont arrivés, eh bien, c'est que les dirigeants suivants, OK, ont probablement voulu montrer un changement de régime politique. Parce qu'on sait que les ossements étaient ceux de dirigeants qui étaient morts depuis des décennies avant que leurs os ne soient incinérés et jetés sous la pyramide avec leurs objets personnels. Alors on croit là, vraiment que c'est pour marquer un changement de régime politique et couper, en fait, les ponts avec l'ancien. Voilà qui met fin à cette tournée de l'actualité historique et archéologique pour le mois d'avril. Et maintenant, passons à notre rubrique à la loupe. Si vous souhaitez lire davantage sur ces actualités, eh bien, je vous rappelle que vous avez simplement à utiliser les mots-clés d'introduction qui devraient vous faciliter la tâche pour trouver les articles sur ces sujets. Vous pouvez aussi suivre mes actualités quotidiennes sur mes comptes Facebook Historiophile, de même qu'Evelyne Ferron Historienne, mais aussi sur mon compte X. Alors, pour notre rubrique à la loupe ce mois-ci, eh bien, dans cette partie du balado, je vous rappelle que nous approfondissons nos connaissances sur un sujet au cœur de l'actualité. Et en avril, il a été difficile pour les amateurs d'histoire et de trésors de ne pas entendre brièvement parler du début des travaux pour sortir des trésors de l'épave d'un galion espagnol qui se trouve près des côtes colombiennes. Il s'agit du San José. Et pourquoi un si grand intérêt pour ce projet? Eh bien, selon les estimations actuelles, l'épave contiendrait un trésor d'une valeur actuelle de 17 milliards d'euros ou 23,5 milliards de dollars canadiens. Alors, ça vaut la peine de s'intéresser un peu à l'histoire de ce navire. Pourquoi il a coulé près des côtes colombiennes et tous les débats juridiques aussi qui entourent la récupération de ce trésor. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés, ça je vous le garantis. Et c'est pas pour rien que les autorités colombiennes veulent se dépêcher pour, je vous dirais, essayer d'avoir la mainmise sur l'essentiel de ce trésor-là. Parce que, le San José est associé en fait à des navires qu'on appelle les flottes de l'or, qui étaient deux imposantes flottes de navires commerciaux qui assuraient le transport de richesses et de biens entre les colonies espagnoles et l'Espagne, sur deux grands axes maritimes en fait. Et l'axe qui nous intéresse, eh bien, c'est celui qui liait Séville aux colonies des Caraïbes. Et les navires, en fait, qui empruntaient cet axe-là faisaient des arrêts à Veracruz, Porto Bello, Cartagène des Indes, en Colombie. Et on sait, en fait, que, bon, ces navires de l'or, à peu près tous ces navires-là, en fait, finissaient par se rencontrer à la Havane avant leur départ pour l'Espagne. Et la plupart de ces navires étaient armés de canons parce que les richesses qu'ils transportaient, ben, je vous mens pas, déjà à l'époque, étaient source de convoitise. Et c'est ce qu'on appelle ces routes de l'or, eh bien, les navires qui les empruntaient là, étaient en activité, on estime, entre 1566 et 1790. Et dans les archives de ces navires qui transportaient ces richesses, eh bien, on a la mention de ce fameux San José. Il s'agit en fait d'un galion de guerre de 3 mâts et 64 canons, ce qui est quand même impressionnant, et qui était en activité depuis 1698, avec son jumeau qui s'appelait le San Joaquin, qui accompagnait une dizaine d'autres navires marchands. Eh bien, ils sont partis début juin 1708. La flotte avait quitté Portobello au Panama et elle était en direction de Cartagène des Indes en Colombie. Et elle devait faire son dernier escale à La Havane pour faire le chargement de ces objets précieux. Parce que c'est un navire de guerre qui, en théorie, là, pouvait se défendre. On sait qu'à bord du San José, il y avait 600 marins à bord. Et le rôle du San José était aussi de protéger les plus petits navires marchands là, qui accompagnaient cette flotte-là, comme le San Joaquin, qui lui va être épargné et qui a pu regagner l'Espagne, de ce que nous en savons. Et C'est un peu grâce, en fait, au San Joaquin qu'on a une idée du chargement aussi du San José qui, lui, va couler. Parce qu'on sait donc que c'est un trésor estimé là, à plusieurs milliards de dollars. On parle d'à peu près 200 tonnes d'or, d'argent et d'émeraudes qui sont à bord en 1708. Alors, c'est quand même pas rien. Et on sait que le San José a été coulé dans le cadre de la guerre de succession d'Espagne. Donc, pour vous situer dans le temps, le 1701-1714, cette guerre qui a impliqué les grands royaumes et principautés d'Europe, et bon, qui avait pour cœur la division des territoires gérés par l'Empire espagnol après la mort du roi Charles II, qui était le dernier souverain de la dynastie des Habsbourg et qui était décédé sans héritier, comme plusieurs souverains et princes d'Europe. Et il avait épousé des femmes de la noblesse espagnole, et là, comme Louis XIV, en fait, avec Marie-Thérèse, et c'est rapidement devenu tout ça un grand conflit européen parce que le couronnement de Philippe V, le petit-fils de Louis XIV, ça plaisait pas à tout le monde dans ce contexte-là. Surtout qu'on est vraiment dans la grande époque des empires coloniaux. Ça implique aussi les colonies des Amériques. Et bon, personne n'est vraiment satisfait, en fait, du choix du successeur. Et la guerre éclate en 1702. Elle oppose les Pays-Bas, l'Angleterre, la plupart des États germaniques, en fait, à la France, l'Espagne, la Bavière et le Portugal et la Savoie qui, eux, sont alliés. Et au terme de cette guerre, la France va conserver l'île Saint-Jean, qui est l'île du Prince-Édouard, et l'île Royale, qui est notre île du Cap-Breton, mais va céder l'Acadie et Terre-Neuve aux Anglais et va leur rendre aussi les territoires, les vastes territoires de la baie d'Hudson, au terme là, de combats terrestres et aussi de batailles navales. C'est vraiment une grosse guerre, en fait, la guerre de succession d'Espagne. Là, on se bat sur le terrain, on se bat beaucoup sur l'eau. Les Anglais emploient beaucoup de corsaires à cette époque-là. Les corsaires qui sont nos civils mandatés par leur royaume avec une lettre de marque, donc ce ne sont pas vraiment des pirates. En fait, ils ont le droit de couler des navires en temps de guerre. Et c'est un peu ça qui est important, en fait, dans notre histoire, ce fait qu'on a des corsaires qui ont le droit de couler des navires ennemis. Et c'est surtout l'Angleterre qui les emploie. Et ils peuvent le faire parfois de manière indépendante aussi. Et donc, nos corsaires sont très actifs là, pendant la guerre de succession d'Espagne parce qu'ils ont pour objectif d'affaiblir la flotte espagnole et tenter de saisir le plus d'or possible. Parce que je vous rappelle que depuis le 15e siècle, en fait, avec la bulle papale de Rodrigue Borgia, du pape, en théorie, les terres les plus riches en or, Amérique du Sud en particulier, ont été séparées entre l'Espagne et le Portugal et l'Angleterre n'a pas sa part ici. Alors, en coulant les navires en mer, eh bien, on peut s'approprier l'or qui est retourner vers l'Espagne. Alors, c'est dans tout ce contexte assez guerrier et compliqué, parce que c'est assez géopolitique aussi, qu'arrive ce qu'on appelle la bataille de Baru, qui se passe en fait près des côtes de Colombie. Nous sommes le 8 juin 1708 et la flotte à laquelle appartenait le San José arrivait pour son escale à Carthagène des Indes après être passé, comme je vous disais, par Portobello au Panama. Notre navire est chargé de son imposante cargaison et la flotte est embusquée le soir par 4 navires de la marine royale anglaise. Et à bord de ces navires, vous avez des corsaires britanniques qui vont attaquer la flotte et vont faire feu avec leurs canons sur le San José. Il explose et il sombre en mer. Et de ce qu'on en sait par les archives maritimes, il entraîne avec lui 578 marins et il y a seulement 11 membres d'équipage qui vont survivre, en fait, au naufrage du San José. Et comme je vous disais, le San Joaquin, lui, a été épargné et va pouvoir regagner l'Espagne. Et il y a d'autres navires qui vont être capturé littéralement par les corsaires comme le Santa Cruz au sein de cette flotte-là avec leur cargaison. Alors voilà, il coule ce navire et la Colombie n'a toujours pas dévoilé le lieu exact où se trouve l'épave, mais on sait qu'elle a été découverte dans la péninsule de Baru, un peu au sud de ce qu'est Carthagène des Indes en Colombie. Mais pourquoi on ne dit pas exactement où est-ce qu'elle se trouve? C'est pour éviter le pillage, parce qu'avec un trésor d'une telle ampleur, tout le monde voudrait sa part et ne déclarerait pas sa visite sur le site sous-marin. Alors, c'est en 2015, en fait, qu'on a réussi à identifier officiellement l'épave. Ça s'était fait dans le cadre d'une expédition conjointe entre la Colombie et des archéologues de l'Institut océanographique de Woods Hole, qui en fait est basé au Massachusetts. Et comment on a pu identifier l'épave en 2015? Eh bien, c'est grâce à ces canons de bronze qui sont ornés de dauphins. Parce que, chaque navire avait quand même des marques assez distinctes. Et les dauphins, comme ça, sur les canons, bien, on le sait par les archives, que c'était le San Jose. Alors, ce serait une société américaine de chasseurs de trésors en mer qu'on appelle la Sea Search Armada, qui aurait découvert en fait l'épave en 1981 et qui, à l'époque, avait avisé les autorités colombiennes. De ce qu'on en sait, parce qu'il y a beaucoup de flou dans cette histoire-là, ils auraient même signé un accord avec le gouvernement colombien pour participer à une éventuelle récupération du trésor et obtenir 50% du butin. Mais pas longtemps après, le gouvernement colombien a fait voter une loi pour déclarer l'épave et son contenu propriété de l'État. Et là, vous avez eu une série de contestations de la part, entre autres, de l'Institut océanographique de Woods Hole aussi, là, qui disait « Attendez une minute, là, on est supposé avoir accès, nous aussi, là, à une partie du trésor. » Alors, tout ça s'est retrouvé, en fait, en 2007, devant la Cour suprême de Colombie, qui a considéré la contestation valide. Et comme on a authentifié vraiment l'épave en 2015, eh bien là, le président de l'époque, qui était Juan Manuel Santos et son gouvernement, se sont dit « Bon, là, il y a des enjeux, beaucoup de gens veulent avoir accès à ce trésor-là, il y a eu des promesses qui ont été faites par le passé, mais dont on n'était pas vraiment au courant, alors on va essayer de jouer le plus fair-play possible. » Alors, en 2015, le gouvernement colombien fait un appel d'offres aux compagnies d'exploration sous-marine pour qu'on soumette des propositions sur comment on pourrait dégager une partie du trésor et le protéger. Et tout ça, ben, ça a amené à une enquête du bureau du procureur de Colombie. Et de ce qu'on en sait, ben, l'enquête a été menée de manière un peu incorrecte. Est-ce qu'il y a eu corruption et tout ça? Bon, c'est pas très clair. Et du moins, l'enquête du procureur a dit ben, les contrats qui étaient signés avant là, ne sont pas valides. Il y a eu trop d'ententes verbales, de choses qui n'ont pas été signées. Ça fonctionne pas. Alors, le président Iván Duque, lui, a dit ben, écoutez, là, il y a eu des stratégies vraiment corrompues par mon prédécesseur. On va essayer de faire ça dans les règles de l'art. On va essayer de sauver ce trésor-là, de s'assurer aussi que l'épave, de ce qui en reste, parce qu'il reste quand même des bons morceaux de l'épave, ben que ça ne se désagrège pas. On va essayer de faire ça comme il faut. Mais là, au moment où on a commencé à annoncer la possibilité d'exhumer le trésor du San José, ben là... L'Espagne a dit « Attendez un instant là, oui, le navire a été coulé le long des côtes colombiennes, mais c'est un galion espagnol, c'est notre navire, cet or-là s'en venait chez nous, alors ben, c'est sûr qu'on voudrait notre part du trésor pour exposer dans nos musées. » Et là, ben, vous avez aussi la Bolivie, oui, la Bolivie qui est intervenue récemment, qui... On va dire que les Autochtones de la culture Caracaras, ben, leurs ancêtres, eux autres, ont été forcés d'extraire l'argent, une partie de l'or qui se trouvait à bord du San José, qui provient en partie des mines de Potosi. Alors, vous voyez un petit peu le bordel juridique qui entoure le San José, et malgré ces contestations-là, il faut inclure aussi les compagnies américaines qui avaient eu des ententes plus ou moins légales avec le gouvernement colombien par le passé, ça explique un petit peu pourquoi la Colombie veut se dépêcher. On ne veut pas que des gens identifient le lieu de l'épave, commencent à sortir le trésor sans supervision. On veut le faire comme il se doit, du moins c'est ce que disent les autorités colombiennes. Et là, pourquoi je vous en parle à ce moment-ci, c'est que pendant le mois d'avril, ben là, on a commencé en fait les premières explorations de l'épave pour essayer de comprendre comment on peut sortir une partie du trésor et qu'est-ce qu'on va sortir. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir rien d'important qui est sorti de l'eau, mais ça, peut-être qu'il y a des choses qui ont été sorties aussi, on n'est pas encore au courant pour l'instant et on va le savoir une fois que c'est en laboratoire. Alors les prochains mois, en ce qui concerne le trésor du San José, s'annonce vraiment intéressant. Alors voilà qui clôt cet épisode d'Historio Info et je vous dis à bientôt!